Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de l'aube avec Ahmad et India, spécialistes des études littéraires. Et je me présente, Yasmina, présentatrice. Tout d'abord, accueillons Ahmad qui va nous aider à analyser la relation entre le fils et la mère.
Bonjour, c'est un plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui.
Et maintenant, accueillons India qui va nous donner une idée de la situation psychologique de Romain Gary, entretien avec lui-même, sa mère et la France.
Enchantée, je suis ravie d'être ici.
Avant de commencer l'émission, je propose d'expliquer aux auditeurs pourquoi je vous ai fait venir ici aujourd'hui, India et Ahmad.
Je vous laisse répondre à cette question, Yasmina.
Je n'attendais que ça. En fait, lorsque je lisais le livre, j'ai remarqué que le rapport d'identité de l'auteur envers lui-même et la France était relié à sa relation avec sa mère, comme on peut le remarquer tout au long de la troisième partie du livre, d'où le lien entre nos deux invités aujourd'hui. Alors commençons par le commencement et parlons un peu de l'auteur. Romain Gary, de son vrai nom Romain Kassou, est né à Vilnius, en Lituanie, le 8 mai 1914. Romain Gary est un célèbre romancier français d'origine russe. Il est l'unique écrivain à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt quant à sa maison d'édition. Ses livres furent publiés par l'édition Folio. Son père abandonna sa mère et lui pour fonder une autre famille alors qu'il n'était qu'un enfant. Alors que Romain Gary, celui qui disait avoir fait un pacte pour ne jamais vieillir, se suicida par balle le 2 décembre 1980. Voilà un bref résumé pour la vie de l'auteur. Maintenant, le livre. Le livre est réparti en trois parties. La première partie parle de l'enfance de l'auteur. La deuxième parle de la vie en France à sa mère et lui-même. Et finalement, la troisième partie parle de la guerre. Après cette petite introduction, je vais laisser la parole aux invités pour qu'ils puissent nous donner leur avis sur le livre après l'avoir lu et analysé. Ahmad, si vous le voulez bien, à vous la parole.
Je commencerai par dire que nous pouvons remarquer que La promesse de l'aube raconte plus l'amour d'une mère pour son fils que les conséquences désastreuses d'une guerre totale. Mais néanmoins, ce livre reste un vrai témoignage sur la Seconde Guerre mondiale.
J'aimerais rajouter que Romain représente le parfait portrait d'un romancier majeur du XXe siècle. En plus d'être écrivain, M. Gary était un diplomate et aussi était alors compagnon de la Libération, chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre. Je trouve aussi que tout au long de son récit, Romain Gary mêle à son style raffiné de véritable analyse politique. J'aimerais rajouter un petit détail assez insignifiant, mais quand même assez plaisant lors de la lecture de l'œuvre. L'auteur utilise un langage courant et quelquefois familier, ce qui rend le récit plus simple à la lecture et donc plus appréciable.
Maintenant que nous sommes dans le bain, je propose que nous commençons. Ahmad, voulez-vous bien commencer ?
Avec plaisir. Prenons ce passage comme exemple. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. On observe dans ce passage que le narrateur, le fils, en veut à sa mère de l'avoir trop aimé durant son enfance. Mais il explique aussi qu'il ne veut pas que les mères concentrent tout leur amour sur le seul enfant et qu'ils doivent le partager avec d'autres personnes, car sinon, les enfants devenus adultes porteront en eux le poison des comparaisons. Comme il a dit lui-même dans ce passage, « Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. » Personnellement, je suis assez d'accord avec l'auteur. Un enfant ne devrait pas recevoir un aussi grand surplus d'amour. Laissez-moi vous expliquer tout cela avec un exemple. Imaginons, vous avez un enfant de 6-7 ans et vous le gâtez, mais le gâtez de tous les jouets possibles et imaginables, toutes les dernières consoles, les jeux de société, les figurines, les peluches, les voitures télécommandées, les balles et j'en passe. Trouvez-vous ça normal? Bien sûr que non, car plus tard, cet enfant ne sera plus satisfait de rien, car dès son plus jeune âge, il aurait été habitué à avoir tout ce qu'il veut et sera blasé de la vie. Il ne connaîtra pas cette sensation d'attente interminable et cette sensation d'excitation suprême et de délivrance quand nous avons enfin reçu ce que l'on attendait le plus. Maintenant, remplacez tous ces jouets par de l'amour. L'auteur ne ressent plus rien car il fut gâté comme un roi pendant toute son enfance. Et maintenant, il ne connaît pas sensation d'attente interminable et cette sensation d'excitation suprême et de délivrance dont je vous ai parlé.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que la mère a beaucoup trop chéri son fils pendant son enfance, ce qui a provoqué pour l'enfant devenu adulte, comme vous l'avez dit, un sentiment d'insuffisance dans tout ce qui touche à l'amour. Même qu'il eut reçu un choc devenu adulte quand il s'est rendu compte, comme le démontre ce passage, j'étais donc loin de soupçonner qu'il arrive aux hommes de traverser la vie, d'occuper des postes importants et de mourir sans jamais parvenir à se débarrasser de l'enfant tapi dans l'ombre, assoiffé d'attention. Attendant jusqu'à la dernière ride, une main douce qui caresse sa tête et une voix qui murmurait « Oui, mon chéri, oui, maman t'aime, toujours, comme personne d'autre n'a jamais su t'aimer. »
Excusez-moi, mais je trouve que ce qu'a fait la mère était en fait un moyen de combler l'absence du père pour que le fils ne sente pas le manque de la présence paternelle. N'oublions pas que cet enfant fut élevé sans un père, sans la présence masculine, que tout enfant doit connaître pour pouvoir grandir en toute, si on peut appeler comme ça, sérénité d'esprit. Un enfant a besoin de deux parents, donc deux fois plus d'amour, que la mère a dû combler toute seule. Après, je ne vous contredis pas sur le fait que cela était peut-être un peu trop venant d'une seule et même personne. Mais n'oublions que chacun a son avis et chacun réagit différemment à un texte ou une phrase, voire un mot dans un livre, donc nous pouvons que donner nos avis. Essayer de changer ceux des autres serait inapproprié, voire enfantin. Sinon, parlons de la lecture. Avez-vous trouvé une quelconque difficulté ou voir quelque chose de déplaisant en lisant le livre par rapport au style d'écriture de l'auteur?
Son style ne nous a pas posé de problème. Personnellement, la lecture était très plaisante. L'auteur nous fait ressentir, à travers son écriture, une sorte de familiarité, voire intimité avec lui.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. À vrai dire, j'avais l'impression que l'auteur lui-même me racontait son histoire personnellement. On ne sentait pas cette barrière qui, normalement, dans la plupart des livres, se fait ressentir entre le lecteur et l'auteur. Ce fut une des nombreuses choses qui m'ont charmé dans ce livre. Je vais vous citer un passage pour vous donner une idée. Des jeunes gens à automobile lui faisaient une cour assidue. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, lorsqu'il m'arrive de l'apercevoir dans Paris, mon cœur se met à battre plus vite et j'entre dans la première épicerie rue sur mon chemin pour acheter une livre de concombres salés.
Excusez-moi, mais je trouve que ce café... Changeons de sujet et penchons-nous sur le rapport avec la France et donc du rapport d'identité. India, s'il vous plaît, pourriez-vous nous en dire un peu plus?
Bien sûr, je commencerai d'abord par vous lire cet extrait qui représente très bien l'importance de la France pour la mère et le fils. Ma mère me parlait de la France comme d'autres mères parlent de Blanche-Neige et du Chaboté, et malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu me débarrasser entièrement de cette image féerique d'une France de héros et de vertus exemplaires. Je suis probablement un des rares hommes au monde resté fidèle à un conte de nourrice. On peut observer dans ce passage que la mère idéalise la France et personnellement, je trouve que la mère en fait trop. Un enfant ne devrait pas être permis de s'attacher à un pays comme il s'attache à une personne. Vous pouvez être patriote, mais personne ne devrait considérer son pays plus important qu'un être vivant. Vous aimerez toujours une personne plus que votre pays, peu importe l'attachement lié au pays.
Si tu permets, je trouve ce passage assez typique d'une relation mère-fils, sauf que les histoires sont juste un peu différentes. La mère ne fait que raconter à son fils à quel point la France est grande en lui racontant des histoires sur cette dernière. Et donc, ce qui va programmer l'esprit de l'enfant et va classer automatiquement ces histoires au même endroit des histoires de nourrice, donc de chevalier ou encore de princesse. En résumé, je trouve au contraire de ce passage assez attachant. Je trouve qu'il rajoute un côté attendrissant au livre. De plus, l'auteur va s'apercevoir que son amour pour la France va très vite être déçu. Il m'a paru enfin que les Français n'étaient pas d'une race à part, qu'ils pouvaient eux aussi être bêtes et ridicules. Bref, que nous étions frères, incontestablement.
Je suis assez d'accord avec Ahmad, sauf que n'exagérons rien et ne modérons rien. Si on observe la chose sous le point de vue de la mère, elle qui est une mère célibataire avec un enfant à sa charge. La France pour elle est un pays de liberté et de droit et qui pourra offrir un avenir prometteur à son fils. Comme nous le confirme ce passage, en attendant d'aller nous fixer en France, où je devais grandir, étudier, devenir quelqu'un. La mère fit comprendre à son fils, déjà à un très jeune âge, que la France sera l'endroit où il deviendra quelqu'un. Mais aussi, je suis assez d'accord avec le fait que la mère ne devrait pas à ce point rabattre les oreilles de son fils au sujet de la France, car un peu plus tard dans le livre, cette admiration, voire adoration, eut des impacts assez troublants chez le jeune adulte. Maintenant, après avoir finalement terminé d'analyser les deux plus grands points du livre, je vous propose de partager avec tous nos auditeurs votre partie ou même extrait favori du livre. Si vous ne voyez aucun problème, j'aimerais bien commencer par partager avec vous mon extrait préféré.
Je vous en prie.
Allez-y.
Alors je commence. Quelque chose de son courage était passé en moi et il reste pour toujours. Aujourd'hui, encore sa volonté et son courage continuent à m'habiter et me rendent la vie bien difficile. Me défend de désespérer. Dans cet extrait, on peut observer que l'auteur ressent en lui la présence constante de sa mère car il déclare que le caractère de cette dernière lui rend la vie difficile et en même temps l'encourage. J'ai trouvé cette partie assez attendrissante car l'auteur devenu adulte n'oublie pas sa mère, au contraire. Il pense à elle tout le temps, il va jusqu'à la ressentir en lui.
J'avoue que cette partie m'avait aussi beaucoup touchée. Le fait qu'il parle de sa mère comme étant lui-même m'avait fait fondre.
Je ne vous cache pas que cette partie pour moi était un genre de répétition, car pendant toute la troisième partie, il n'arrête pas de parler de la présence de sa mère en lui. Donc, personnellement, je n'ai pas aimé plus que ça cet extrait.
Comme on dit, les goûts et les couleurs ne discutent pas. Bon, qui veut continuer ?
J'ai hâte de partager cet extrait qui, personnellement, m'a beaucoup fait rire. Avant cet extrait, l'auteur explique comment il s'était fait recaler au poste d'officier, de sergent et même de caporal-chef. Et qu'il fut nommé caporal. Alors que Romain se trouvait allongé sur son matelas, le caporal-chef, piaille, il ne s'en rappelait plus, vient le voir et lui expliqua qu'il fut collé par les capitaines car il avait été naturalisé. Cet extrait se passe 5 ans après cet épisode, juste après avoir reçu son grade à la suite de ses examens. Quant aux beaux capitaines et à leurs coups de poignard, je les ai revus 5 ans plus tard. Et ils étaient moins beaux. Pas le moindre bout de ruban ne fleurissait leur poitrine, et ce fut avec une expression bien curieuse qu'ils regardèrent cet autre capitaine qu'il recevait dans son bureau. J'étais alors compagnon de la Libération, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, et je ne faisais rien pour le cacher. Je rougis beaucoup plus facilement de colère que de modestie. Je parlais quelques instants avec eux, évoquant des souvenirs, d'abord des souvenirs inoffensifs. Je ne sentais aucune animosité à leur égard. Il y avait longtemps qu'ils étaient morts et enterrés. Le livre de Romain Gary contient plein de moments humoristiques, mais je dois avouer que celui-ci est mon préféré.
C'est vrai que ce passage était amusant.
Je dirais même hilarant. Je ne vous cache pas que lors de ma lecture, j'ai éclaté de rire lors de ce passage.
Dernière, mais pas la moins importante, India, si vous le voulez, à vous la parole.
Je ne vous cache pas que je n'attendais que ça. Alors, cet extrait se passe à la fin du livre. J'avoue que je me voyais mal parler de la promesse de l'aube, sans sa fin. Je ne sais pas ce que je vois au juste dans les yeux des bêtes, mais leur regard a une sorte d'interpellation muette, d'incompréhension, de question, qui me rappelle quelque chose et me bouleverse complètement. Je n'ai d'ailleurs pas de bêtes chez moi, parce que je m'attache très facilement, et tout compte fait, je préfère m'attacher à l'océan, qui ne meurt pas vite. Dans cet extrait, il explique, et ce fut ce qui me charma dans ce passage, qu'il n'avait pas de bête, car il s'attache très facilement, et donc lorsque la pauvre bête mourra, il sera dévasté. Et donc il préfère s'attacher à l'océan, qui ne mourra pas, ne le laissera pas tomber. Mais il considère aussi la mort d'un être cher, d'une bête dans cet extrait, comme une trahison, car il insinue qu'elle le laisserait tomber. De cet extrait, on comprend que l'auteur se sentit trahi lorsque sa mère mourut sans un mot, et le laissant seul à lui-même, sans plus personne à aimer.
C'est ici une belle analyse que tu viens de faire, India. Je n'avais pas vu la chose sous cet angle. Je suis impressionné.
Moi de même, mais je dois dire qu'à la lecture de ce passage, j'en ai eu les larmes aux yeux. Cela me rendit triste qu'il ne veuille même plus s'attacher à une petite bête pleine d'amour, comme Bouée, comme il l'eût dit dans les chapitres précédents. Qui dit la promesse de l'aube parle de sa fin. Qu'en avez-vous pensé, chers invités ?
La fin, dites-vous ? Comment dire ? Elle m'a surprise. Je trouvais ça un peu égoïste de la part de la mère de ne même pas prévenir son fils qu'elle allait mourir, juste pour qu'il continue de se battre. D'accord, il fut soutenu tout le long de son péril par sa mère, ses lettres et même sa présence au fond de lui. Mais le comble d'un enfant est de voir partir ses enfants en leur disant adieu, de ce que le fils ne put faire. La fin, dites-vous ? Comment dire ? Elle m'a surprise. Je trouvais ça un peu égoïste de la part de la mère de ne même pas prévenir son fils qu'elle allait mourir juste pour qu'il continue de se battre. D'accord, il fut soutenu tout le long de son péril par sa mère, ses lettres et même sa présence au fond de lui. Mais le comble d'un enfant est de voir partir ses parents en leur disant adieu, ce que le fils ne put faire.
Je vous le dis tout de suite, lorsque j'ai fermé le livre, ma première réaction avait été de fermer le livre et de repenser à la fin. Pour une fin inattendue, c'était une fin inattendue. Je ne sais pas ce qui m'a rendu la plus triste. Le fait qu'il n'ait jamais pu tenir sa promesse envers sa mère du vivant de cette dernière, ou la tristesse que l'on pouvait ressentir derrière chacune de ses dernières paroles lorsqu'il nous parlait de la mort de sa mère. Peut-être les deux.
Pour ma part, cette fin inattendue eut l'effet d'une bombe émotionnelle en moi. Je pus difficilement retenir mes larmes, ce qui aurait été mérité car le travail de Romain Gary est l'un des plus personnels que j'eus la chance de lire. Un auteur qui vous fait sentir aussi proche de lui pour réveiller l'humanité en chacun de nous, même de la plus indifférente des personnes. Sur cette note mélancolique, je vous propose de terminer l'émission. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, India et Ahmed. J'espère avoir à nouveau la chance de travailler avec vous.
Moi de même, ce fut un plaisir.
Plaisir partagé.
Sur ces derniers mots, je vous remercie et chers auditeurs d'avoir assisté à cette chronique ayant pour thème la promesse de l'aube.
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle donne notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris.